Le Seigneur est au milieu de nous. Et il veut parler à chacun de nous, selon son plan pour chacune de nos vies. Et le Seigneur m'a donné cette parole ce matin alors que j'étais assise là. Cette parole prophétique pour vous, son peuple. Et la voici, sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Voici, je viens sur les nuées du ciel. Que chacun se prépare à la rencontre de son Dieu. Que chacun purifie sa robe. Que chacun livre non seulement son cœur, son esprit, mais livre aussi son corps à la sainteté divine, car rien d'impur ni de souillé n'entrera dans mon ciel de gloire, dit le Seigneur. Alors, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, laisse le monde se souiller, que celui qui se souille encore, mais que celui qui est saint se sanctifie encore, dit le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu trois fois saint, et que rien de souillé ni d'impur ne pourra entrer dans ton ciel de gloire. Alors Seigneur, ce matin, tu nous appelles à vérifier notre robe pour voir si elle est entachée de quelque chose. Nous pouvons chanter tes louanges, élever nos cœurs vers toi, et cependant, tolérer certaines choses dans notre corps qui appartiennent aussi à Dieu. Et le Seigneur voudrait que nous nous replacions ce matin comme dans sa sainte présence, en disant « Seigneur, je veux te donner mon être tout entier, mon esprit, mon âme et mon corps, pour te servir, Seigneur. » Alléluia. Alléluia. Savez-vous que votre corps ne vous appartient pas? Moi, je le sais aussi. Parce qu'il y a bientôt 40 ans, j'étais missionnaire en Afrique et le Seigneur m'a donné un sursis de vie. Je suis aujourd'hui là, si je suis là, c'est à cause de la grâce de mon Seigneur. Parce qu'il m'a sauvé la vie, il m'a redonné la vie. J'étais mourante, j'avais 27 ans. Et maman de deux petites filles. Nous étions en Afrique en pleine brousse et j'ai été atteinte d'une crise de malaria ou de paludisme aigu avec une hépatite virale. Cela faisait 10 jours que je ne mangeais plus et 3 jours que je ne pouvais plus boire sous le soleil africain. Alors 3 jours sans boire, vous mourrez, c'est certain. Il y en a qui meurent moins que ça. Et j'étais là comme couchée sur un lit sans force. Je sentais la mort venir. D'ailleurs, les mouches commençaient à me couvrir. Je sentais mauvais. C'était la mort qui arrivait. Je la sentais venir. Et on m'avait transportée un peu plus loin dans une petite ville, pensant m'hospitaliser le lendemain. Et les missionnaires s'étaient réunis tous ensemble pour prier pour moi. Ils savaient que j'allais mourir. Tout le monde priait. Et moi, sur mon lit de mort, j'ai entendu la voix de Dieu, comme je vous entendrai. Je l'ai entendu très clairement. Le Seigneur m'a dit, « Crois-tu que je peux te guérir ?» J'étais missionnaire. J'ai dit, « Seigneur, certes, mais Seigneur, je n'ai même plus la force de faire agir ma foi. Vous pouvez être à un degré de faiblesse au bord de la tombe. Vous ne pouvez plus, vous n'avez plus de force pour rien, même pas pour prier. Mais le Seigneur entend même les soupirs de notre cœur. C'est ça qui est merveilleux, même les soupirs. Il n'a pas besoin de parole. Et j'ai dit, oui Seigneur, alors donne-moi un petit peu de force pour croire. Et à ce moment-là, il m'a donné, il a répondu exactement à ce que j'avais demandé. Il m'a donné un petit peu de force. Le Seigneur, vous savez, il tient compte de tout ce qui se passe dans ta vie. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, il le voit. Tout ce que tu penses, il le sait aussi. Et j'ai eu assez de force pour me jeter en bas. Plus près ? J'ai eu assez de force, juste assez de force pour me laisser tomber en bas de mon lit. Et j'ai rampé par terre. J'avais 27 ans, n'oubliez pas, en pleine force de l'âge. Hein. J'ai rampé sur le sol jusque dans la pièce voisine où tous les missionnaires priaient pour moi. Et je leur ai dit, le Seigneur vient de me parler, il va me guérir. Faites-moi l'onction d'huile, selon Jacques 5. Et le Seigneur va me guérir. Il m'a dit qu'il allait le guérir. Alors tous les missionnaires se sont rassemblés autour de moi. Ils m'ont imposé les mains. Ils m'ont fait l'onction d'huile. Au moment où tout le monde était réuni dans la prière, devant la face de Dieu, la puissance de Dieu est venue sur moi. Comme un courant de 10 000 volts qui a traversé mon organisme de la tête jusqu'aux pieds. Vous savez, comme si un courant fort passait à travers votre organisme. Et moi qui ne pouvais plus marcher, qui ne pouvais plus rien, plus manger, plus rien du tout, plus penser, plus prier, je me suis levée, je suis guérie. Je suis guérie, Jésus m'a guérie. Alléluia! Je suis une miraculée du Seigneur. Alléluia! Alléluia! Et je veux rendre gloire à mon Seigneur ce matin encore. Je ne cesserai de le faire tant qu'il m'accordera vie, parce que je sais que ma vie ne m'appartient pas. Mon souffle est entre les mains de Dieu. Et s'il veut me l'enlever maintenant, il peut le faire. Et vous aussi. N'oubliez pas, vous aussi. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir accordé tout ce temps pour te servir encore. Combien je suis heureuse de le faire, Seigneur. Heureuse. Garde-moi fidèle à toi, dans les bons et dans les mauvais jours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux t'aimer. Jusqu'au bout, je veux te glorifier, Seigneur. Que toute ma vie te glorifie. Et Seigneur, que mon corps soit sanctifié aussi. Seigneur, je ne veux rien toucher d'impur, rien de souillé devant ta face. Je ne veux pas attrister ton cœur de père. Et vous savez, un jour, nous serons là-haut, et là-haut, ce sera la gloire, la paix parfaite, la félicité. Et dernièrement, dans une de nos réunions, le Seigneur m'a donné cette belle image. Il m'a dit, « Sais-tu que ma couronne d'épines, que la couronne d'épines que les hommes m'ont mise à la crucifixion, sais-tu que cette couronne d'épines s'est transformée en couronne de gloire dans le ciel ? Elle n'est plus une couronne d'épines, elle est une couronne de gloire. Il est actuellement le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et tout œil le verra un jour. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom qui règne sur la terre, dans les cieux. Et cette couronne de gloire dans le ciel, sur cette couronne de gloire, j'ai vu tout un tas de perles précieuses, de diamants, de rubis, toutes sortes de perles précieuses. Et ces perles précieuses, quelles sont-elles? Ce sont les précieuses âmes qu'il a sauvées à la croix. C'est nous, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur. Et nous allons orner sa couronne pendant l'éternité, pendant l'éternité. Et tout œil le verra. Et les anges regarderont de près et seront dans l'émerveillement devant ce que l'agneau de Dieu a fait pour toi et pour moi. Il m'a tant aimé, dit un cantique, un chant. Il m'a tant aimé. Alors s'il m'a tant aimé, je veux aussi l'aimer. Maintenant, je voudrais parler de quelque chose qui s'est passé, un autre témoignage, qui vous encouragera aussi. Parce que ça s'est passé ici au Canada, ici au Québec, à Gatineau, plus précisément, il y a quelques années, où le Seigneur s'est glorifié, comme il l'a fait de multiples fois maintenant, au travers des paroles de connaissance que le Seigneur me donne. Le Seigneur guérit des gens mourants qui sont sur leur lit de mort, comme moi je l'étais. Quelque part, c'est la conduite, c'est le chemin du Seigneur pour ma vie. Et j'en suis heureuse. Je suis heureuse de pouvoir le servir de cette façon. Nous étions à Gatineau dans une église. Et j'en suis heureuse. Je lis. Et comme après le message de Samuel, le Seigneur me donne des paroles de connaissance qu'il me révèle souvent avant la réunion, pendant la semaine ou avant même, et des paroles prophétiques aussi. Et après le message de Samuel, j'ai dit de la part du Seigneur, il y a quelqu'un ici qui souffre d'une grave décalcification des os. Mais je ne savais pas que son cas était encore plus grave, mais le Seigneur n'est même pas limité aux paroles que je dis, aux mots que je dis ou que je ne dis pas. Je n'avais pas besoin de prononcer le mot de cancer, ça n'a pas empêché le Seigneur d'agir. Mais il s'agissait effectivement d'un cancer des os. Et le Seigneur touche cette personne ici, maintenant, de la part du Seigneur. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la réunion, un monsieur est venu me voir et me dire qu'en fait, d'après tout le descriptif que j'avais donné de la situation, il s'agissait exactement de sa mère. Et sa mère n'était pas à la réunion. Elle était chez elle, elle était en train de mourir du cancer des os à la maison. Et il a dit, ça c'est ma mère et je le prends. Je prends cette parole. Parce que vous savez, quand le Seigneur passe, il faut prendre ce qu'il nous donne. Si Bartimée l'aveugle n'avait pas crié à Jésus, ben, il serait resté aveugle. Alors quand le Seigneur vous dit quelque chose, prenez-le, croyez-le, c'est Jésus. Ben, il serait resté frère là, il a dit, moi je le prends pour ma mère, je le prends. Vous, savez-vous, quand il est rentré à la maison, sa mère qui était sur son lit attendant la mort, était debout. Debout. Et elle a 74 ans. Elle avait à l'époque, il y a 2-3 ans en arrière, 3-4, debout, et non seulement elle était complètement guérie, la preuve c'est que 3 jours après elle allait faire ses courses, et 3 semaines après elle faisait ses boîtes pour déménager à 74 ans. Nous l'avons revue une année après, elle allait très bien. Et elle s'était impliquée dans l'église davantage. Et ça a été un témoignage pour toute l'église. Le pasteur en est témoin ici et toute l'église. Alors nous voulons rendre gloire au Seigneur de la vie. Je suis la résurrection et la vie, a dit le Seigneur. Et s'il est la résurrection et la vie, peu importe la petite cellule de ton corps qui ne fonctionne pas bien, il est la résurrection et la vie. Il est ressuscité des morts. Alléluia. Il est vivant aujourd'hui. Amen. Il règne aujourd'hui. Amen. Qu'il puisse régner dans nos cœurs. À chacun. C'est son désir. Que ce soit le nôtre aussi. Disons-lui, Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi-même. Et je veux pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Encore un tout petit témoignage. Ça s'est passé dans la Beauce aussi, ici, parce que ça fait déjà plusieurs fois que nous venons ici, et c'est la 11e fois, donc c'est notre seconde patrie, pour ainsi dire, ici. Et nous étions dans la Beauce, et je faisais une réunion avec les femmes, c'est le ministère que le Seigneur m'a confié aussi, l'enseignement aux femmes et aux épouses de serviteurs de Dieu, un peu partout dans le monde. Et je faisais donc une réunion de femmes. Et le Seigneur, après le message, me donne quelques paroles de connaissance. Et je dis de la part du Seigneur, il y a une dame qui souffre des deux genoux. Tu souffres terriblement des deux genoux. Le Seigneur te touche maintenant. Immédiatement, une jeune dame d'une un peu plus de 30 ans, c'est quand même un peu rare, des jeunes qui souffrent d'arthrose dans les genoux à 30 ans, ça arrive, mais c'est quand même pas si courant que ça. Eh bien, cette dame-là, c'était une dame qui travaillait dans une ferme et elle était comme un peu handicapée à cause de... Elle ne pouvait plus bien faire son travail à la ferme. Et donc, elle souffrait terriblement des deux genoux. Et cette femme, de s'écrouler, quand j'ai dit « Le Seigneur touche quelqu'un qui a mal aux deux genoux », elle s'est effondrée. Elle a pleuré. Elle a dit « Seigneur, mais je t'ai rien demandé !» Vous savez ce qu'elle était en train de faire? Elle était en train d'intercéder quelqu'un qui était dans un pire cas qu'elle. À quelqu'un qui avait une maladie plus grave qu'elle. Elle priait pour quelqu'un et le Seigneur a pensé à elle. Quelle leçon pour nous! Quelle leçon! Elle a été guérie, mais elle pleurait. Seigneur, je t'ai rien demandé. Je la vois encore. C'est tellement beau. Nous n'avons pas forcément besoin de supplier le Seigneur de nous donner quelque chose. Vous savez, il voudrait nous le donner beaucoup plus que nous le recevoir. Alors croyons qu'il connaît chacune de nos situations et qu'il a un mot pour chacun de nous ce matin. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole. Nous voulons être à l'écoute de sa voix. Seigneur, merci. Tu es le vivant. Tu es le miséricordieux et sa miséricorde dure à toujours. Et sa miséricorde dure à toujours. Et sa miséricorde dure à toujours. Seigneur, merci, ta miséricorde pour chacun de nous dure à toujours. Nous voici devant toi. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Nous voici pour te servir, pour vivre pour toi et te glorifier partout où tu nous enverras. Que ton nom soit hautement élevé, Seigneur, ce matin. Nous sommes devant toi et nous voulons t'écouter, nous parler, Seigneur. Tu es bon pour chacun de nous, Seigneur.
Seigneur, nous voulons te remercier, te glorifier pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais dans ta grande compassion envers nous. Seigneur, nous sommes loin de réaliser combien ta compassion est grande envers chacun d'entre nous. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci encore pour tout ce que tu feras. Car tu es vivant. Tu es au milieu de ton peuple. Tu veux le conduire de victoire en victoire. De foi en foi, merci pour ces témoignages et merci aussi pour ta parole. Veuille la bénir maintenant. Tu as quelque chose à nous dire. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous puissions bien comprendre ce que tu veux nous dire. Que nous soyons sensibles à ta voix. Que vraiment nous soyons, Seigneur, attentifs à ce que tu veux nous dire, afin que tu puisses agir dans nos vies et par nos vies. Car tu veux faire quelque chose en nous et par nous. Nous voulons ainsi maintenant te demander de nous parler. Et nous comptons sur l'assistance et le ministère du Saint-Esprit pour nous inspirer ce que nous devons entendre et écouter. Merci Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons. Toi seul es digne de notre louange et de notre adoration au siècle des siècles. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'instant même, tu viendrais dès aujourd'hui. Le Seigneur veut tellement se révéler à nos cœurs. Si nous savions combien il veut nous serrer sur son propre cœur et nous dire qu'il nous aime et qu'il veut nous bénir, nous aider, nous encourager, nous relever, nous fortifier. Chacun d'entre nous ici a du prix aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur veut faire une œuvre dans chacune des vies ici. Le Seigneur ne veut pas seulement utiliser les prédicateurs, mais chaque chrétien, dans le plan de Dieu, a une activité, un appel, un don, un ministère, quelque chose. Beaucoup ont mal compris cela, ils pensent que leur ministère, c'est de venir chauffer les bancs de l'Église. Et ils pensent que leur ministère se résume à cela. Il y a quelque chose de beaucoup plus glorieux que cela. Beaucoup plus glorieux que cela. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Et nous allons voir dans l'Apocalypse, brièvement, là où les noms des chrétiens sont mentionnés dans le ciel. Car lorsque nous voyons dans l'Apocalypse comment les chrétiens se comportent et quel est leur nom, alors nous pouvons mieux comprendre ce que le Seigneur attend d'un chrétien. Car là, on est déjà dans le ciel. Là, déjà, les chrétiens sont entrés dans ce que Dieu attend pleinement d'eux. Il est bon de voir quels sont les noms des chrétiens dans le ciel et voir si, d'après ces noms-là, j'agis comme cela aussi. Parce que c'est comme cela qu'on va voir si on est un vrai chrétien ou un mauvais chrétien ou un faux chrétien. C'est toujours à la lumière de la parole et à la lumière de l'éternité. Car dans le ciel, c'est la perfection. Et là, on ne peut rien cacher. Ici-bas, nous pouvons cacher beaucoup de choses. Nous pouvons paraître pour un bon chrétien. Mais aux yeux de l'éternité et de la lumière céleste, nous pouvons paraître comme un pâle chrétien. Un chrétien qui est un chrétien entre guillemets, mais sans plus. Donc avant d'arriver au ciel, le ciel est déjà venu au milieu de nous par la parole de Dieu. Et il y a un message du ciel pour toi, pour moi. Quels sont les noms ? Il y en a plusieurs. Je ne vais pas tous vous les donner maintenant parce que bien souvent, je les donne tous et après, je n'arrive pas à tout dire ce que j'ai à dire. Alors, on va aller un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Le premier nom des chrétiens dans le ciel, par ordre d'importance, je les donne par ordre d'importance, c'est le nom de racheté. Un chrétien, un vrai chrétien est un racheté. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire « Amen » de temps en temps. Ça ne me dérange pas. Et si vous êtes en pleine forme, vous pouvez dire « Alléluia ». Alors commençons, c'est dans l'Apocalypse, vous le savez. Apocalypse 5, nous avons cette mention à partir du verset 8. « Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. » Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as... » Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Soulignez bien cela. « Et tu as racheté... » pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Juste une petite précision en passant, il est dit qu'il sauva... Il racheta des hommes, des femmes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation.
Avez-vous remarqué ici, je le précise parce que souvent on entend cela sur la terre, mais dans le ciel on n'entend pas. Il n'est pas dit ici, il est dit ici à toute nation et non pas à toute dénomination. N'avez-vous pas entendu cela? Oh, il y aura au ciel des gens de toutes les dénominations. Ça, c'est ta petite interprétation à toi. De toute nation, oui. Mais de toute dénomination, non. On peut avoir une grande dénomination officielle. Vous le savez, n'est-ce pas? Et être perdu. Appartenir à une dénomination. Dire, moi, je suis né dans telle dénomination. Je resterai dans cette dénomination. Mais on me dit, mais ce n'est pas la religion qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Et vous voyez des multitudes qui seront perdues parce qu'ils ont mis leur confiance dans leur religion, dans leur dénomination. La religion ne sauve pas. Il n'y en a qu'un seul qui sauve, c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation, racheté. Nous allons nous arrêter brièvement à ce mot-là. Un racheté. Donc un vrai chrétien, c'est un racheté. Êtes-vous un racheté? Oh, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est dangereux pour toi. Oh, je crois. Ah bon, tu crois? Mais j'ai l'impression que tu crois n'importe quoi. Ce n'est pas le tout de croire. Le diable croit, il tremble même. Et toi, tu ne trembles même pas. Il chantait les rachetés. Voilà pourquoi il y a dans le ciel la multitude des rachetés chantent de tout leur être, de tout leur cœur, le cantique de l'agneau. Un racheté, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a compris un jour qu'il était perdu. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu sauver les perdus. Il est venu à notre secours pour nous délivrer de la mort éternelle, du jugement éternel. Nous étions ennemis de Dieu. Je lisais ce matin dans Romains, souvent, on passe un peu sur, de la pommade sur ce qu'est l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu, mes amis, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose de terrible. Dans Romains chapitre 3, il est dit ceci au verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Et voilà la description de quelqu'un qui a été racheté par le sang de Jésus. Voilà les personnes qu'il est venu racheter, ceux qui étaient dans cette condition-là. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, je m'excuse, même ici, au Canada, il n'y en a pas un seul. En France, il n'y en a pas. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont justes. Mais pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Pouvez-vous dire amen à chaque phrase, à chaque mot, sincèrement? Pouvez-vous dire ça c'est moi? Ça c'est moi, ça c'est moi. Ou alors, c'est un peu du fanatisme tout ça. Alors si tu as ce raisonnement-là, tu ne connais pas ton propre cœur. Et tu ne le vois surtout pas comme Dieu le voit. car nous, on se passe toujours de la pommade sur le dos et sur son cœur aussi. On se passe souvent de la pommade, mais les rachetés, ce sont qui ? Ce sont des ennemis de Dieu, des rebelles, des pécheurs, des perdus. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voyez encore une fois, ça revient, pas même un seul. Pour que nous comprenions bien, pas même tous, qu'il n'y a pas un qui pourra un jour se présenter devant Dieu comme cela par lui-même, sans être purifié, délivré de ses péchés par le sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre qui délivrera l'homme de l'enfer éternel et de ses péchés. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Qui n'a pas menti ? Beaucoup de gens disent « Oh, mais moi, je n'ai pas fait de mal. » Tu n'as pas jamais dit un mensonge ? Tu n'as jamais dit un mensonge ? Un seul mensonge te fermera le ciel. Vous dites « Mais c'est pas possible. » C'est aussi grave que ça. Mais oui, c'est aussi grave que cela. Voilà pourquoi Jésus a dû venir sur cette terre. Parce que la condition humaine, ta condition, ma condition, était irrécupérable, était incurable. La parole de Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux, est méchant par-dessus tout. Une autre version dit, est tortueux, est incurable. Incurable, qui peut le connaître ? Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Vous avez remarqué ici ? Pas sur leurs lèvres, mais sous leurs lèvres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par-dessus, sur la lèvre, il y a de belles paroles. Mais par-dessous, ça pique. Mais on le cache. C'est sous, c'est dessous. On est des champions pour cacher les choses. On est des champions pour paraître bien devant les autres. Mais Dieu dit, tu es champion pour porter un masque et te faire passer pour quelqu'un de bien, de juste. Mais moi, je regarde derrière ton masque. Je regarde non pas sur ta langue, mais sous ta langue. Ce que tu caches, et c'est un venin d'aspi, ce n'est pas beau. Ils ont, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. C'est pas possible. Il faut dire amen à tout ça. Parce que Jésus est venu sauver des personnes qui ont réalisé cela. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Quel portrait ! Et quand nous réalisons tout cela, alors nous comprenons le message de Jésus-Christ quand il est venu. Ses premières paroles ont été « Repentez-vous, Marc, dans l'évangile de Marc, et croyez à la bonne nouvelle. » Autrement dit, maintenant ça suffit. La comédie a assez duré. Votre confiance en vous-même, dans votre religion, dans vos bonnes œuvres, ce masque que vous portez continuellement, ça suffit maintenant. La lumière est venue du ciel pour chasser les ténèbres. La vérité est venue du ciel pour dénoncer le mensonge. C'est comme si Jésus disait maintenant ça suffit. Repentez-vous. Vous vous êtes cachés. Vous croyez que tout va bien. Dites-moi, quand Jésus est venu, vous le savez comme moi, il y avait des multitudes de religions sur la terre. Si c'était une religion qui sauve, Jésus ne serait jamais venu. Ça ne manquait pas. Jésus n'est pas venu amener une nouvelle religion, mais une nouvelle vie. Amen. Il y a des multitudes de religions, mais un seul évangile. Un seul évangile. Les rachetés, les rachetés. Ce sont ceux qui ont réalisé leur état de perdition, leur condition d'ennemi de Dieu, d'être impur. Par leur regard, leurs paroles, leurs gestes, tout était souillé en eux. Et quand ils ont entendu le message, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors en face de ce message, Dieu dit, maintenant, le moment est venu de te repentir, de rejeter, de couper avec ta vie passée entièrement. La repentance, c'est cela mes amis, c'est la coupure radicale avec ta vie passée, un changement radical que tu fais quant à ta vie passée. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, j'espère que ce n'est pas comme ça ici, mais il y a beaucoup de chrétiens qui se disent qu'ils sont sauvés, mais il n'y a rien de changé. La mauvaise langue est toujours là. Le mauvais regard impur est toujours là. Les mauvais gestes sont toujours là. Qu'est-ce qui a changé? Les mauvaises habitudes, les passions mauvaises sont toujours là. Il dit, mais moi je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais qu'est-ce que c'est que ce christianisme? Ça, c'est un christianisme qui est accepté ici-bas, mais pas dans le ciel. Dans le ciel, ce sont des rachetés. Et pourquoi ils chantent, ils louent? Parce qu'ils ont réalisé combien leur péché était grand. Et à ce péché qui était grand et incurable, il fallait un grand sacrifice sanglant, celui de leur sauveur et de leur rédempteur. Alléluia! Et c'est pourquoi ils sont là devant le trône à chanter ce cantique nouveau. Seigneur, si nous sommes ici, disait-il, c'est à cause de ton amour extraordinaire pour des pécheurs, pour des rebelles, des êtres impurs. Nous t'avons déshonoré tant de fois, Seigneur, mais ta grâce est venue, s'est manifestée. Tu es mort pour moi, pécheur. Tu es mort pour moi. Quel amour! Moi qui méritais l'enfer et la séparation éternelle d'avec Dieu, tu es venu mourir à ma place. C'est moi qui devais subir ce jugement divin, mais il l'a subi à ma place. Mais il était blessé pour nos péchés, nous dit le prophète Ésaïe. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tombé sur lui. Je devais être jugé à cause de sa sainteté et de sa justice. Dieu devait me juger, me condamner. Mais dans son amour, il nous dit, « Mais je ne veux pas que tu sois perdu. Je t'envoie mon Fils bien-aimé, qui portera lui ta condamnation, ton jugement, ton péché. Il le prendra sur lui. » Il sera jugé à ta place. Et si tu le crois, tu seras pardonné de tes péchés. Et tu vivras une vie nouvelle. Alléluia. Les rachetés, mes amis, rien ne peut nous arrêter quand nous avons compris cela. Et notre louange n'est plus une louange du bout des lèvres. Comme Jésus un jour l'a dit aux pharisiens, ce peuple m'honore des lèvres. Et le verbe honorer veut dire adorer dans le texte grec. C'est adorer. Ce peuple m'adore du bout des lèvres, du bout des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Voyez-vous? Mais au ciel, est-ce que c'est comme ça? Ça, sur la terre, c'est comme ça. Mais au ciel, c'est fini tout ça. Les masques tombent. C'est fini. C'est fini tout ça. Dans le ciel, les rachetés, ce sont ceux qui ont réalisé leur état de perdition. Et la grâce incommensurable de Dieu, cette grâce immense. Pensons-y un peu, mes amis, pensons-y. Rappelons-nous d'où le Seigneur nous a tirés et notre vie chrétienne changera. Beaucoup de chrétiens jouent avec le péché. Ils font ce que les païens font. Et ensuite, il faut inviter les païens à se convertir quand nous-mêmes nous faisons la même chose. C'est un scandale devant Dieu. Un chrétien, un vrai chrétien, tel que le ciel le voit, c'est un racheté. Et quand on est vraiment racheté, qu'on s'est vraiment repenti de tout ce qui a déshonoré Dieu, et qu'on accepte le remède, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, alors mes amis, on ne peut faire qu'une chose, chanter. On ne vous demande plus de louer le Seigneur, c'est vous qui commencez. On va vous dire d'arrêter, maintenant ça suffit. Ici on doit dire allez, 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 allez. Mais si vraiment tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, on va dire maintenant ça suffit, ça va, ça va, ça va, t'as bien loué, ça va, ça va. Est-ce qu'on en est là? Ou est-ce qu'on est toujours en train de pomper? On pompe, on pompe. Et la réunion terminée, tout se dégonfle. Les chrétiens qui sont gonflés, qui sont dégonflés, continuellement. Non, quand on a compris d'où le Seigneur nous a sauvés, que nous sommes des rachetés. Et il dit dans l'Apocalypse, tu es digne de prendre. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Avez-vous remarqué? Il nous sauve, il nous délivre de notre culpabilité, du péché, de l'emprise du malin. Parce que lorsqu'on se convertit, non seulement on abandonne son péché, mais aussi toutes ces pratiques mauvaises, occultes que nous avons pu faire dans le passé. Tout cela doit passer au feu. C'est comme ça que ça se passait dans les Actes des Apôtres. Ce n'était pas seulement « je te confesse mon péché, alléluia, amen ». C'est une foi sans repentance. Et une foi sans repentance ne sauve personne. Amen. Ça, faut bien le comprendre. Ça, cette foi sans repentance n'est pas une foi agréée par Dieu. Quand la foi est ancrée dans une vie de repentance sincère, alors c'est la vraie libération. Libérée de son péché et libérée du pouvoir de Satan. Parce que désormais, on a détruit toutes les œuvres du diable dans notre vie, dans notre maison. Parce qu'il y avait des photos, des choses sales, des idoles, je ne sais quoi. Tout cela disparaît. Vous rentrez à la maison, vous dites, mais là, c'est le balayage qui commence. Et c'est le balayage. Ça, c'était mon ancienne vie, cette image-là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais cette tête, j'en veux plus. Cette idole, et ceci et cela. Tout est changement de propriétaire. Quand Jésus vient dans une vie, c'est un changement de propriétaire. Avez-vous remarqué? Des magasins, souvent, on voit à l'extérieur, changement de propriétaire, comme pour dire, attention, c'est plus comme avant. Ça change, c'est un nouveau propriétaire. Avant, vous n'osiez pas rentrer là, mais maintenant, vous allez rentrer, vous allez voir, c'est nouveau, ça change. Et il devrait y avoir sur tout chrétien, devant, derrière, sur la tête, partout, je ne sais pas où, changement de propriétaire. Autrefois, je servais le diable. Autrefois, je me servais moi-même. J'étais esclave de moi-même. Mais maintenant, je sers Jésus-Christ. Mon Rédempteur, mon Sauveur, il nous a rachetés, il a racheté pour Dieu. Ça veut dire que autrefois nous étions esclaves du diable et maintenant nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Autrement dit, un vrai chrétien, un racheté, n'est pas seulement celui qui dit « Ça y est, Jésus m'a sauvé, je me suis pardonné » et qui continue de faire ce qu'il veut. C'est fini ça, c'est pas ça. Quelqu'un qui est racheté, ça veut dire « Seigneur, j'abandonne ma vie passée, je te demande de me pardonner, de me purifier par son sang, il le fait, parce qu'il est nu pour cela. » Mais ensuite, me voici, Seigneur, il nous libère pour qu'on lui appartienne, car nous avons été créés pour Dieu, pour vivre en communion avec lui, pour faire sa volonté. Et c'est cela, en racheté. Il nous a rachetés pour Dieu, non pas pour nous-mêmes, pour qu'on continue de vivre comme on veut. Tout simplement, on veut aller au ciel, on veut être pardonné, c'est tout. Mais on ne veut pas faire sa volonté. On ne veut pas changer de vie. Ça, c'est un christianisme qui n'existe pas dans le ciel. Ça, Dieu, pour Dieu, ça n'a aucune valeur. Il nous a rachetés pour Dieu. Autrement dit, un vrai chrétien, il est pardonné, libéré. Et ensuite, il dit, me voici, Seigneur, à partir de maintenant, je veux faire tout ce qui te plaît. Et comment savoir ce qui plaît à Dieu? Eh bien, il faut lire les évangiles, les épîtres, la parole de Dieu. Là, vous saurez tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Tout est là, et votre première parole doit être « Maintenant, Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Vous vous rappelez quand Paul s'est converti? Ses premières paroles, c'était « C'est quoi? Qui es-tu, Jésus ?» Et ensuite, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? « Que veux-tu que je fasse ?» Regardez-moi ça. « Que veux-tu que je fasse ?» Voilà. Il est racheté pour Dieu. Il sait maintenant que sa vie ne lui appartient pas. Il appartient à Dieu. Et s'il appartient à Dieu, il lui dit « Maintenant, je suis à ta disposition. » 100%. Voilà pourquoi Paul a été utilisé. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On en donne la moitié, les trois quarts. Même si vous donnez 99,99%, ce n'est pas suffisant. Dieu te dit, c'est ce 1% ou un centième de pourcent que tu retiens pour toi. C'est ça que je veux. Pourquoi je le veux? Si tu ne le fais pas, le diable te reviendra là et te détruira. Et de nouveau, le péché rentrera dans ta vie et tu seras malheureux et tu risques de tout perdre. C'est entièrement que nous devons être à notre Dieu. Amen. Et alors, quand on est entier pour le Seigneur, automatiquement, on loue, on chante, et personne ne peut nous arrêter. Alléluia. Cantique de l'agneau. On dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Mais on n'aura jamais... L'éternité ne va pas suffire pour dire merci, merci, merci. Pourquoi? Parce qu'on a derrière nos têtes la perdition éternelle qui était la nôtre. Si Jésus n'était pas venu, si Jésus n'était pas venu, on ne serait pas dans ce siège de gloire en train de contempler le visage de notre Sauveur. On sera en enfer, dans les tourments éternels. En racheté, comprend tout cela. Elle dit, Seigneur, nous sommes ici, c'est pour toi. Et nous ne serons pas les seuls, voyez-vous, de toute langue, tribu, peuple, nation, partout. Avec le Seigneur, tout disparaît. Un chrétien, c'est vraiment un nouvel homme, une nouvelle femme, c'est une nouvelle créature. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17, vous le connaissez? Si quelqu'un est en Christ, il est une... Nouvelle créature, les choses anciennes sont? Et voici, toutes choses sont devenues? Oui, mais attention, maintenant, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ont des versions nouvelles. Vous connaissez leur version? Si quelqu'un est en Christ, il n'est pas une nouvelle créature. Il n'est pas une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont pas toutes passées. Ah oui, ah ben, c'est ce qu'on entend des fois. Et voici, tout n'est pas complètement nouveau. Voilà les nouvelles versions. Eh oui, beaucoup de chrétiens ont cette version-là parce qu'ils ne sont pas passés par une vraie repentance. Et c'est pour ça qu'ils pensent encore après qu'il faudra encore bricoler, mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, mettre un habit neuf sur un habit. Un habit comment? Déchiré, souillé, et on fait du rafistolage. Et ce sont les chrétiens qui n'avancent jamais parce qu'ils n'ont pas définitivement coupé avec leur passé. Dans leur style de vie, en racheter, les racheter. Êtes-vous dans ce nombre-là? On est déjà au ciel, là. Attention, on est dans l'Apocalypse, là. Voilà comment ils chantent. Les chrétiens, ce sont des rachetés, les vrais chrétiens. Peux-tu dire que je suis un racheté? Un vrai racheté, un vrai chrétien qui a coupé avec la vie passée pour vivre désormais pour Dieu. Et pour mon Sauveur, éternellement. Amen. Amen. Alors, après, une fois qu'on le racheté est là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un autre nom qui est donné aux chrétiens. Et dans l'Apocalypse, toujours, 1, verset 6. Nous allons voir cela maintenant, parce que les deux vont ensemble. Apocalypse 1, 6. À celui qui nous aime et qui nous a... délivré de nos péchés par son sang. C'est tout ce qu'on vient de voir maintenant, n'est-ce pas? Délivré. Vous voyez, il est pas... certaines versions qui nous ont lavé de nos péchés, mais d'autres versions ont délivré. Et je crois que le mot délivré est bon ici parce que c'est une délivrance que Jésus est venu opérer. Il nous a délivré de nos péchés, délivré de la main de Satan, délivré de ce monde souillé et impur. C'est une véritable délivrance. D'ailleurs, le mot salut veut dire délivrance. Quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui est délivré. Mais aujourd'hui, on entend, on est sauvé, mais on a besoin d'être délivré encore. Qu'est-ce que c'est que ce soir? On est sauvé, et quand on est sauvé, on est délivré. Mais avant d'être sauvé, il faut d'abord tout détruire, ce qui vient du diable. Amen. Je ne veux pas recommencer mon message. Je ne veux pas recommencer. Mais c'est ça. Mais une fois qu'on est sauvé, le mot sauvé veut dire délivré aussi. Pardonné, mais aussi délivré. Et il nous a délivrés par son sang de nos péchés. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. On pourrait traduire un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors le deuxième nom ici, c'est quoi? Des sacrificateurs. Un vrai chrétien est un sacrificateur. Et nous sommes même un royaume de sacrificateurs. Autrement dit... on règne dans nos vies, sur nos vies, et avec le Seigneur, en louant, en adorant notre Dieu. Amen. Si tu veux vivre en vainqueur, si tu veux vivre comme un roi qui règne sur tes passions, sur tes mauvaises idées, mauvaises conceptions, tes mauvaises habitudes, alors, une fois que tu es racheté, ce que tu dois faire maintenant est réaliser. C'est que Dieu maintenant fait de toi un sacrificateur qui doit désormais adorer sans Dieu, sans Rédempteur. Amen. D'où l'importance, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous avons été créés pour adorer Dieu. C'est là, quand dans l'adoration, nous retrouvons le plan initial de Dieu pour chaque homme. Si tu n'adores pas le Seigneur de tout ton cœur, tu vas adorer quelqu'un d'autre. Tout le monde est adorateur. Mais il y a les vrais adorateurs et il y a les faux adorateurs. Il y a des adorateurs qui adorent l'homme, qui adorent même une dénomination, qui adorent je ne sais quoi, ou la créature. Et Dieu nous dit que nous devons adorer le Créateur et non la créature. Voyez-vous, tout le monde est adorateur. Et une fois qu'on l'est sauvé, nous devons réaliser que Dieu nous fait entrer dans ce royaume de sacrificateur pour l'adorer et le louer. Et là, on retrouve cette relation initiale que Dieu a voulu dès les temps anciens, dès la création du monde. Voilà ce que Dieu avait voulu. L'éternel Dieu venait dans le jardin d'Éden et il y avait une relation extraordinaire vers le soir. Adam entendait la voix de Dieu et il y avait cette relation d'amour, cette relation extraordinaire d'adoration qui était là de la part d'Adam. C'était ce qu'il y avait au départ. Et avec le salut, la conversion, la régénération, la nouvelle naissance, la nouvelle création d'un individu, il retrouve ce que l'homme, Adam, a perdu à la création, c'est-à-dire désormais adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut adorer Dieu, n'est-ce pas vrai? Et seulement ceux qui sont purifiés par le sang de Jésus qui peuvent adorer Dieu. Et seulement par l'Esprit de Dieu que nous pouvons l'adorer. Mais ceci pour dire que désormais nous devenons des adorateurs. Et un adorateur, écoutez-moi bien, je vais terminer, je ne vais pas être trop long maintenant, mais je vais me donner quelques points importants sur l'adoration, afin qu'elle ne soit pas seulement quelque chose du bout des lèvres. Bien souvent j'entends des choses, ah oui, on va passer un bon temps. Ce n'est pas un bon temps qu'on va passer, on vient pour adorer le Seigneur. Un bon temps c'est quoi? Ça c'est une conséquence de notre adoration, mais on ne vient pas pour passer un bon temps, on vient pour adorer Dieu. On vient pour lui, on ne vient pas pour nous. Combien de chrétiens viennent pour être bénis? On ne vient pas à l'église pour être béni, on vient pour bénir le Seigneur. C'est le païen qui vient à l'église pour être béni, mais le chrétien, lui, vient pour bénir le Seigneur. Il est déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Il est déjà béni. Et il vient non pas pour être béni, et des chrétiens de 30 ans, 40 ans, Seigneur bénis-moi, bénis-moi, et ils sont là tout le temps en train de demander des bénédictions, on ne s'en sort pas. Si Dieu les bénit, ça passe dans un sac percé, et tout de suite il faut recommencer encore, ça ne marche pas. L'égoïsme, bénis-moi, 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 et puis ça ne va pas plus loin. C'est fini tout ça. Un vrai chrétien, c'est terminé, il est sacrificateur, il s'oublie lui-même. Maintenant, son ministère, c'est de penser à Dieu. Comme je le dis souvent, vous savez, dans la grammaire, il y a la conjugaison. Il y a la conjugaison dans la grammaire. La grammaire française, comment est-ce qu'on conjugue? Je, tu, il. Hein? Mais la grammaire du Seigneur, c'est exactement le contraire. C'est il, tu, je. Il doit prendre la première place. Ensuite, tu, c'est le prochain qui doit prendre la deuxième place. Et moi, je suis à la fin. Mais mon rôle, c'est de mettre le Seigneur en premier. Et quand le Seigneur est en premier, après, il m'utilise pour bénir les autres. Et moi, après, je n'ai plus besoin d'être béni. Si tu fais ça dans l'ordre, le Seigneur et les autres, toi, tu seras super béni. Tu n'auras plus le temps de prier pour être béni. Tu as déjà béni le Seigneur. Étant béni par le Seigneur, tu n'auras qu'un désir de bénir les autres. Et si tu as cette vision-là, tu es béni. C'est pourquoi Paul nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui adore. Et dans l'adoration, il y a cet élément d'amour. On adore parce qu'on aime le Seigneur. Amen. Il faut bien veiller à ne pas adorer le Seigneur du bout des lèvres, mais adorer parce qu'on l'aime. Et pourquoi on l'aime? La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Seigneur, je t'aime parce que j'ai compris que tu m'as aimé le premier. Alors voyez-vous, dans cette adoration, il y a toujours la croix. Chantez beaucoup de chants sur la croix. mes amis, écoutez-moi bien, c'est très important. J'ai remarqué une chose dans nos tournées ici, il n'y a pas beaucoup de chants sur la croix. Et voilà pourquoi la foi des chrétiens est superficielle. La prédication de la croix, chanter la croix, l'œuvre parfaite de Jésus. Vous ne le savez peut-être pas, mais le réveil au Pays de Galles, au début du siècle, pourquoi c'était un réveil extraordinaire? Parce qu'ils chantaient la croix, ils prêchaient sur la croix. Mais le jour où ils se sont détournés de tout cela, le réveil a disparu. La croix, c'est là qu'on réalise l'amour de Dieu pour nous. Et en retour, nous ne pouvons que l'aimer, n'est-ce pas vrai? Et si je dis, Seigneur, je t'aime, c'est parce que dans, derrière tout cela, il y a le message de la croix. Seigneur, tu m'as aimé jusqu'à donner ta vie pour moi. Alors comment ne pas t'aimer en retour? Mais s'il n'y a pas tout cela derrière notre petite tête, je t'aime Seigneur, mais dans notre tête on pense le Seigneur il ne m'aime pas, il m'a abandonné, j'ai prié l'autre jour et il n'a pas répondu, c'est pire qu'avant, maintenant ça ne va plus du tout. Si on adore comme ça, est-ce que ça marche? Ça ne marchera jamais. L'adoration, c'est l'amour, notre amour qui s'élève vers le Seigneur, mais toujours dans la pensée. Seigneur, si je t'aime maintenant, c'est parce que tu m'as aimé le premier. Moi qui étais haïssable, moi qui étais pécheur, perdu, tu m'as sauvé, mais quel amour! Alors comment ne pas t'aimer davantage? Jésus a dit une fois, celui à qui peu est pardonné, il aimera peu. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, il aimera beaucoup. Ne l'oubliez pas. Il y a différentes sortes d'amour là, hein? Différents niveaux d'amour. Il y en a qui aiment le Seigneur pour 10 ans, j'allais dire, parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient une dette de 100 euros. Ça, c'est en Europe, mais 100 dollars. Seigneur, je t'aime parce que tu m'as vraiment remis ma dette de 100 dollars. Oh, extraordinaire. Bon, c'est bien. Mais il y en a d'autres qui ont réalisé beaucoup plus que ça. Ils ont réalisé que leur dette devant Dieu, c'était 1 million de dollars. Quand on vous remet une dette d'1 million... Comment est-ce que vous réagissez à l'égard de la personne qui vous a remis votre dette? Non, merci pour là. Tu m'as remis ma dette d'1 million, merci. C'est comme ça marche? Vous êtes reconnaissant. Quand vous voyez cette personne, vous dites, mais cette personne m'a sorti du gouffre. Comment ne pas être reconnaissant? Comment avoir honte de cette personne? Au contraire, il y a un amour sincère pour cette personne, n'est-ce pas vrai? J'avais 1 million de dollars que je ne pouvais jamais payer. Il a payé ma dette. Alors notre amour sera d'autant plus grand, vous êtes d'accord avec moi? Mais l'autre, il croit que ça, Dieu lui a pardonné pour 100 dollars. Oui, Seigneur, je t'aime. Mais bon, oui, je t'aime, mais tu sais, je ne suis pas si mauvais que ça, Seigneur. Voilà. Il est en train de se vanter devant Dieu. Un pardon à 100 dollars. Seigneur, oui, tu vois, mais il y a pire que moi, Seigneur. Il y a pire que moi. Voilà. Alors ça, c'est les pardons à 100 dollars. On aime un amour à 100 dollars. Je t'aime, Seigneur, mais bon, sans plus, quoi. Mais 1 million de dollars, c'est autre chose, vous êtes d'accord avec moi? Et Dieu veut qu'on réalise qu'il nous a pardonné 1 million de dollars, autrement dit, une dette que nous ne pouvions jamais payer. Jamais payer. Jamais payer. Si on ne la payait pas, c'était l'enfer et la séparation éternelle. Et quand quelqu'un vient te dire, je te fais grâce, ta tête est remise, mais qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne? Vous pouvez rester insensible, c'est impossible. Si vous êtes insensible, c'est que vous n'avez rien compris, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez qu'un désir après, c'est de l'aimer. Et l'amour vous conduit plus loin, l'adoration vous conduit à aimer. L'amour vous conduit à quoi? À vous donner entièrement. Quand on aime quelqu'un, on se donne entièrement, n'est-ce pas vrai? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de divorces aujourd'hui? C'est parce que l'amour n'est plus là. Tant que l'amour était là, ça allait. Mais quand l'amour n'est pas 100% des deux côtés, est-ce que ça marche? Ça ne marchera pas. L'amour s'exprime toujours en termes de plénitude, totalité. Il n'y a pas « je t'aime à 50%, ça n'existe pas. Mais tu sais, je t'aime à la folie à 75%. Qui pourra être satisfait ici de ça? Hein, ma épouse, si votre mari vous dit ça un jour, « mais tu sais, chérie, je t'aime à 90%, mais à la folie !» Comment 90%? Ta folie, c'est de la folie. Je n'ai pas besoin de ta folie, moi. C'est cet amour-là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais quand il vous dit « je t'aime » à 100%, alors là, il n'y a plus besoin de faire dessin, n'est-ce pas vrai? C'est tout ce qu'il vous faut, vous êtes d'accord avec moi? Il n'en faut pas plus. Quand on sait que c'est total, entier, complet, là, la relation peut être normale, n'est-ce pas vrai? Et c'est merveilleux. Et avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, si vous lui dites « je t'aime », mais c'est à 50%, 60%, 75%, ça ne tiendra pas. c'est à 100%. Quand on aime vraiment, on se donne entièrement. S'il n'y a pas le don total de sa vie pour dire maintenant, me voici Seigneur, je suis à toi, alors cet amour n'est pas complet. C'est un amour qui marchande encore. Et vous serez toujours malheureux. Vous serez malheureux tant que cet amour n'est pas entier pour le Seigneur. Et je termine. Adoration, amour, don de soi au Seigneur. Et ensuite, quand on aime quelqu'un, on n'a qu'un désir. C'est de le servir. C'est de le servir. Et pourquoi au ciel, vous le remarquerez, tous les chrétiens sont des serviteurs. Il n'y en a pas un qui est dans son petit coin et qui fait son petit culte à part. Et qui dit « Bénis-moi Seigneur, Alléluia, bénis-moi ». Ça n'existe plus, c'est fini ça. Là-haut, tout le monde a son travail. Et tout pour le Seigneur. Mais il ne faut pas attendre le ciel pour faire cela. C'est dès maintenant que ça doit commencer. Notre apprentissage pour le ciel commence sur la terre. Sur la terre, c'est maintenant sur la terre que ça commence. Sinon un jour il y aura des surprises. Que Dieu bénisse ces quelques paroles, mes amis. Mon épouse va juste donner quelques paroles prophétiques avant de terminer. Restons dans le recueillement maintenant. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Que vraiment ta parole pénètre au plus profond de nous-mêmes. Et que nous puissions être des vrais chrétiens selon ta parole, selon la vision céleste, selon l'Apocalypse. Seigneur, aide-nous à être ainsi des hommes et des femmes qui te glorifient, dès maintenant et à jamais. Amen.
Le Seigneur m'a donné quelques paroles prophétiques pour des personnes en particulier au milieu de nous, et cela avant de venir. Et le Seigneur s'adresse à un serviteur de Dieu au milieu de nous. Une parole d'encouragement pour un serviteur de Dieu qui a des combats, et le Seigneur le sait. Il vient te dire, mon serviteur, tu dis parfois dans ton cœur, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, mon serviteur, ne te décourage pas. C'est dur, je le sais, mais j'ai été ta force. J'ai été ta lumière, je t'ai conduit, je t'ai protégé jusqu'à ce jour. Je n'ai pas changé, te dit le Seigneur, et je le fais encore fidèlement aujourd'hui. Tu es comme fatigué, comme lassé du ministère parfois que je t'ai confié. Mais je viens aujourd'hui pour te dire, mon serviteur, je ne t'ai pas oublié. Je t'ai gravé sur mes mains, et ceux qui se confient en moi ne seront pas confus. Ce que je te demande cependant, c'est de ne pas compter sur tes propres forces, ni de t'appuyer sur ta sagesse, car souviens-toi que mes voies sont au-dessus de tes voies, que mon plan est au-dessus de ton plan. Jusqu'ici, tu as travaillé sans relâche, mais moi, je voudrais que tu passes plus de temps à rechercher ma face, et je te révélerai ainsi mes pensées, mon plan. Et en recherchant ainsi ma face et ma volonté, je renouvellerai aussi moi-même tes forces. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Parce que quand nous sommes fatigués, parfois le travail dans le ministère est dur. Tu le sais aussi, Seigneur. Mais tu sais toujours venir nous encourager au bon moment. Tu ne permets pas que nous nous découragions outre mesure. Tu viens nous dire une petite parole. Mon serviteur, je t'aime. Mon serviteur, je ne t'ai pas oublié. Mon serviteur, tu es précieux. Ce que tu fais pour moi est précieux. Merci, Seigneur. Et le Seigneur voudrait aussi donner une parole pour quelqu'un ici, plus particulièrement qui a des difficultés, des tragédies même jalonnent ta route. Le Seigneur a vu toutes les tragédies qui se sont passées dans ta vie dernièrement. Et il te dit, prends courage, mon enfant. Ne crains point tous ces obstacles et ces difficultés qui se sont dressés sur ta route. Tu as mis ta confiance en moi et depuis ce jour-là, tu es en chemin avec moi vers une destination indescriptiblement glorieuse. Ton avenir, c'est la gloire, c'est la paix, c'est la lumière. qu'aucune langue humaine ne peut décrire. Souviens-toi aussi que les épreuves, les oppositions que je permets dans ta vie ne sont et ne seront jamais au-dessus de tes forces. Avec chacune d'entre elles, te dit le Seigneur, je te donne aussi exactement la force qu'il te faut pour traverser cette période de turbulence. Seigneur, merci. Les périodes de turbulence, tu les connais. Et il y en a peut-être plusieurs au milieu de nous, de périodes de turbulence. Merci Seigneur, tu chemines avec nous. Nous pouvons nous décharger sur toi de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, car toi-même tu les portes déjà. Alors à quoi bon nous encore vouloir les porter ? Nous voulons ce matin, Seigneur, nous décharger sur toi de tout souci, de tout fardeau, car toi-même tu nous portes. Et quand tu nous portes, tu portes nos fardeaux aussi. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Et le Seigneur a bien insisté qu'il allait toucher quelqu'un ce matin ici qui a des problèmes de circulation dans le sang au niveau cérébral, dans ton cerveau. Et ça crée des pertes de mémoire parfois considérables. Seigneur, merci de toucher cette personne. Amen. Et d'irriguer son cerveau à nouveau normalement, Seigneur, que ce cerveau s'irrigue normalement, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de toucher cette personne et de régler ce problème dans sa vie. Merci, gloire à toi, louange à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Amen.
Je suis l'Éternel qui te guérit. Prends cette guérison, prends-la. Prends-la pour toi. Alléluia. Alors que le Seigneur passe au milieu de nous. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite chronique et ça crée des maux de tête dans le front. Merci Seigneur, tu touches aussi cela. Et tu enlèves, tu guéris cette sinusite. Merci Seigneur. Louange à toi. Puissance à toi. Et une personne qui a un mal dans le genou. Que cette douleur s'en aille au nom de Jésus. Par la puissance de Jésus. Merci Seigneur. Que cette douleur s'en aille. Alléluia. Louange à toi. Reçois la guérison. Reçois-la. Reçois-la et bénis le Seigneur. Ton Sauveur, celui qui t'a racheté, qui t'a pardonné tous tes péchés et qui aujourd'hui te touche. Il m'a touché. Il y a un chant qui dit « Il m'a touché ». C'est vrai, c'est merveilleux. Quand tu nous touches, Seigneur, et nous voulons te dire tout notre amour, toute notre reconnaissance pour tout ce que tu es pour chacun de nous. À toi la gloire et la puissance et l'honneur et le règne qui te revient à tout jamais.